Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube, etc. etc. Enfin bref, tous les réseaux sociaux sur lesquels on se trouve. On le dit à chaque fois, vous êtes toujours plus nombreux à relayer nos différents podcasts, à les liker, à les retweeter et à nous donner des retours positifs. Et ça, c'est très important pour nous que ce soit positif. D'ailleurs, n'importe quel retour, nous les prenons pour nous améliorer. Enfin, en tout cas, merci beaucoup. Sachez également que le second numéro de Lucarne Opposée est désormais disponible sur notre site. Un dossier football féminin sauce LO, une rétro 1984, des tas d'histoires et de culture foot au sommaire. Franchement, objectivement, si vous ne vous le procurez pas, vous ratez quelque chose. C'est du lourd, du très très lourd qui est au programme de ce Bola Latina numéro 4, puisqu'il s'agit d'une édition spéciale Copa Libertadores 2018. La légendaire compétition sud-américaine débutera sa phase de poule le 27 février, des poules que nous allons détailler pour vous, chers auditeurs et auditrices. Vous en avez de la chance, non? Enfin bon, allez, un peu de sérieux, on s'ouvre tout de même l'appétit avec les noticias. Polémique au Costa Rica où Mariano Torres, joueur du Deportivo Saprissa, n'a pas trouvé mieux que d'aller coller une beigne à un supporter qui ne devait pour sa part pas être non plus en train de lui conter fleurette. L'incident a eu lieu lors de la lourde défaite des Grenats en Conca Champions face au gigantesque América de México, 5-1. Torres ne connaît pas encore sa sanction, mais il y a fort à penser qu'il ne pourra jouer le retour en terre mexicaine. Ses coéquipiers n'avaient pas forcément besoin de ça. Au Mexique, justement, la Liga MX arrive à mi-parcours de cette Clausura 2018, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la course à la qualification pour la Liga reste ouverte. Si l'América d'un Menez qui va piano hein, pour rentrer dans le bain occupe seule la première place, ce n'est qu'avec 4 points d'avance sur le 9e et premier non qualifiable, Toluca en l'occurrence. Alors, s'il est encore difficile de se prononcer en ce qui concerne la Liguilla, l'on peut en revanche d'ores et déjà s'avancer en disant que les carottes sont cuites pour le duo Atlas Guadalajara-Lobos de Puebla et que l'affaire paraît plutôt compliquée pour les Chivas de Guadalajara également, Cruz Azul, Querétaro et Veracruz. Dans l'affiche de la semaine de Lucarne Opposée consacrée au classico bolivien entre Bolivar et The Strongest, si vous ne l'avez raté, tout n'est pas perdu, hein, c'est disponible sur la page YouTube de Lucarne Opposée, ce sont les Aurinegros qui l'ont remporté par 2-1. Si les recrues du Bolivar étaient attendues de pied ferme, ce sont celles des Tigres qui se sont illustrées en la personne de Carcelén et Ibargüen. Chez le voisin péruvien, l'heure n'est pas à la fête. En effet, les Incas pleurent le décès du journaliste Daniel Peredo, commentateur attitré, entre autres, de la sélection et surtout très apprécié de tous. Son rêve était de commenter le mondial de son pays et souhaitons que sa mémoire soit honorée par la bande de Paolo Guerrero. Un hommage lui a été rendu au Stade National cette semaine, voici le nôtre.
Recuperó Vargas, el servicio largo para buscar a Rengifo, apóyate con Paolo Elaza. Vargas, va Vargas, empuja Vargas, quiere pasar Vargas, sigue Vargas, lucha Vargas, pasó Vargas, qué bien la hizo Vargas, aquí está el empate, en el área Perañol, en el área Perañol, está gol, 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 ¡Con el corazón de Vargas! ¡Con los huevos de Vargas!
En Argentine, Boca continue d'écraser la concurrence avec une froideur effrayante, mais déchaîne également les passions dans les médias. Entendons-nous bien, une masse immense de mastiqueurs de bife et chorizo est pour Boca, les instances sont plus ou moins ouvertement pro Boca, et le président de la République, Macri, est tout simplement l'ancien président de Boca. De quoi attiser suspicion et jalousie de la part de ses adversaires, River en tête bien évidemment. Mais je ne saurais mieux l'expliquer que l'article de Nicolas Cougo sur le sujet sur le site de Lucarne Opposée. Et au milieu coulent les polémiques, comme le dit si bien le titre. Du côté de Rio, Flamengo a remporté sans suer la Taça Guanabara face au modeste Boavista. Les autres historiques font actuellement très pâle figure, vous voyez plutôt Vasco et Fluminense ne sont même pas sortis de leur groupe. L'on rappelle que le championnat Carioca fonctionne en plusieurs parties, la Taça Guanabara n'étant que la première. Il reste donc du temps à nos cancres Carioca pour se refaire la cerise. Les fondations ancestrales de la Libertadores ont tremblé cette semaine. La Conmebol a en effet annoncé que les finales se joueront en un seul match sur terrain neutre à compter de l'édition 2019. Un changement d'une tradition qui, c'est un avis un peu subjectif certes, faisait une bonne partie du charme de cette légendaire compétition. Enfin, je ne me sens tout de même pas si seul que ça, puisque la perte de cette finale, de ces finales aller-retour, fait grogner énormément de monde sur le continent. En ce qui concerne la Libertadores 2018, par contre, vous sentez qu'on s'en rapproche tout doucement là ? La dernière phase préliminaire a livré son verdict. Santa Fe écrase le Santiago Wanderers, le National se défait de Banfield dans la douleur, Junior Barranquilla a également trimé pour écarter Guarani, et enfin, Vasco a carrément frôlé le ridicule et l'élimination en laissant Jorge Wilstermann revenir à égalité alors que les Brésiliens comptaient 4 buts d'avance en début de partie. Ça passe finalement au péno pour le géant de la colline. Jorge Wilstermann et Banfield sont donc reversés en Copa Sudamericana au détriment de Guarani et Santiago Wanderers. Bon, on y est là. On l'attaque ou pas cette Copa Libertadores 2018 ? Allez, c'est parti. Et chose première, chose due, on part donc pour un gros brief, un gros focus sur la Copa Libertadores 2018, cette légendaire Coupe continentale d'Amérique latine, ou d'Amérique du Sud, même si le Mexique y a un petit peu participé, mais n'y participe plus. Enfin bref, la Copa Libertadores que l'on ne présente plus. Et enfin, justement, si on va la présenter, pour la présenter, eh ben, on a du beau monde aujourd'hui, puisqu'on a bah déjà on a Nicolas, Mister Senior, Lucarne Opposée, himself. Comment vas-tu ?
Eh ben, ça va bien. Et toi ?
Ça va très bien. Écoute, tout va bien à Belo Horizonte, tout va bien. On attend, on attend l'entrée en lice de Cruzeiro. Et j'accueille bien entendu aussi Jérôme Le Cygne, spécialiste uruguayen de Lucarne Opposée. Comment ça va, Jérôme ?
Très bien. Et toi, prêt pour une grande Libertadores 2018 ?
Et avec des grands Uruguayens, avec une grosse présence uruguayenne, on l'espère pour toi, on n'en doute pas. Et enfin, pour compléter ce quatuor, en me comptant, nous accueillons Mister El Condor de Lucarne Opposée, Thomas Alain from La Paz. Comment ça va, Thomas ?
Exactement, salut à tous, ça va très bien, d'autant plus que j'ai la chance d'avoir deux clubs de La Paz cette année en Copa Libertadores, on va se régaler.
Ah oui, ça, on sent qu'il y a de l'inside Lucarne Opposée dans l'air, et on a hâte de lire ça et de voir les photos. Eh bien écoutez, on va pas tarder plus que ça, parce que c'est un très très gros morceau qui nous attend, et ce que je vous propose, c'est d'aller voir ce qui va se passer en Libertadores, groupe par groupe, tout simplement. Eh bien, on va commencer par le groupe 1, hein. On va continuer à être logique. Le groupe 1, messieurs, qui est composé de Grêmio, du Cerro Porteño, du Defensor Sporting et de Monagas, donc Grêmio brésilien, Cerro Porteño de Asunción, donc Asunción.
Paraguay.
Voilà, Paraguay. Il y en a au moins qui suit, bravo. Defensor Sporting, alors là, bon, bah, Jérôme, hein, voilà.
Uruguay, papa.
Sporting, Uruguay. Et Monagas du Venezuela. Eh bien, messieurs, bah écoute, Jérôme, je te propose de commencer par le défenseur. C'est pas forcément dans ce groupe qui est composé du tenant du titre, du champion paraguayen. C'est comme le défenseur a ses chances ou ça va quand même être compliqué de passer au-dessus brésilien du paraguayen?
Oh, ben ça va, c'est toujours compliqué parce que ça reste un petit club. C'est le troisième du Uruguay maintenant. Ils ont quand même une équipe stable et solide. Donc ils méritent d'être là, clairement, par rapport à la saison qu'ils ont fait l'année dernière. Les hommes d'Acevedo ont voilà, un effectif bien huilé. Ce sera toujours compliqué, mais la dernière fois qu'ils ont été loin en Libertadores, c'était en 2014. Ils avaient fait demi-finale. Ils avaient notamment battu Cruzeiro à l'époque pour se qualifier dans leur poule. Donc, ils savent aussi faire des compétitions de qualité. Il faudra voir. Ça va dépendre rapidement des premiers matchs. Ils jouent Grêmio. Ça peut être, voilà, ça peut être compliqué, mais ça peut aussi bien se passer. Et je pense que ça peut être une surprise pour les deux grands de vous d'arriver et de voir la qualité de l'effectif du défenseur.
On rappelle que le défenseur, on l'avait dit dans la présentation sur l'Uruguay, c'est un peu la troisième force uruguayenne derrière Peñarol National et voilà, c'est surtout un gros pourvoyeur de talent et que le défenseur a tout à fait une carte à tirer, d'autant plus que le Cerro Porteño, qui est un des deux gigantesques du Paraguay avec Olimpia, a à faire oublier une saison continentale 2017 pas terrible du tout, mais ils sont champions tout de même du Paraguay. On peut s'attendre, et voilà, et c'est un habitué quand même normalement des bonnes performances continentales. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Cerro Porteño, Nicolas?
Bah ça va être, c'est compliqué en fait de savoir ce qu'on peut attendre du Cerro Porteño parce que tu l'as dit, ils sont champions. Le souci c'est que tu en avais parlé dans un précédent podcast dans les brèves, notamment grâce à José Luis Chilavert, il y a eu des dommages collatéraux puisque l'entraîneur Leonel Alvarez s'est barré, enfin, il a été viré, ça s'est pas trop bien passé. Donc on va repartir sur un nouveau cycle, ce qui est paradoxal. Quand on sort d'une équipe championne, on va partir sur un nouveau cycle. Maintenant, ils ont trouvé vraiment un bon entraîneur, puisque c'est Luis Zubeldia qui arrive. On l'a vu passer notamment du côté de la LDU, on l'avait vu toujours faire un excellent travail, mais on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ils ont perdu quelques joueurs de talent, je pense à Josué Coleman qui est parti en MLS, qui est un vrai petit meneur de jeu. On ne sait pas encore trop vraiment à quoi s'attendre avec ce Cerro Porteño qui est parti tout doucement en championnat. Autant, voilà, vous l'avez sous-entendu, hein, avec Jérôme dès le départ, on s'attend à ce que Grêmio soit pas trop inquiété sur ce groupe là. Je pense que le défenseur a une vraie carte à jouer, a en tout cas beaucoup plus de certitude que le Cerro Porteño, et on sait que ces deux équipes là vont se battre pour la deuxième place, et ça me paraît bien plus ouvert que entre guillemets prévu sur le papier.
Bah oui, d'autant plus ouvert que le Grêmio ne pourrait rapidement plus être le géant qu'il a été l'an passé, puisque Grêmio, qui est le tenant du titre, qui a des grands joueurs comme qui resteront, ça on en est à peu près sûr, comme le gardien Marcelo Greux, comme la défense très solide Kahneman, Pedro Jeromel, mais il est fort possible que les Gaucho perdent leur attaquant Luan, qui a été le joueur de la Copa Libertadores 2017, qu'on a moins vu briller pendant la Coupe du Monde des clubs, mais qui reste un très grand talent et qui risque de quitter le club pour l'Europe, même s'il n'y a pas trop de pistes actuellement, mais on le voit mal passer la fenêtre des transferts à partir de juin-juillet tranquillement. Et Arthur, le milieu relayeur, le un peu box-to-box, milieu défensif box-to-box du Grêmio, des Grémistes, qui lui est actuellement pisté par Barcelone, les Catalans. Ça, c'est un secret de Polichinelle, c'est déjà sorti dans la presse. Donc voilà, le Grêmio, en effet, tu l'as dit, qui sera assurément le favori de ce groupe, mais qui rapidement pourrait ne plus avoir le même visage que l'an passé. D'autant plus qu'au niveau des recrues, pour le moment, c'est assez calme. Peut-être qu'on attend d'ailleurs du côté de Grêmio des ressources financières provenant éventuellement de gros transferts comme celui de Luan ou Arthur. Donc le Grêmio premier, j'ai envie de dire, oui, ce serait logique, mais voilà, sait-on jamais.
Après, si je peux, juste sur le Grêmio, pour les avoir commentés sur la Recopa, ils ont fait sans Arthur. Il y a plus ou moins des bruits qui courent comme quoi, en fait, Arthur n'a pas joué parce que Barcelone fait un peu pression pour le préserver. On a cru comprendre aussi que si Arthur doit partir, ça ne sera pas avant la fin de l'année. Donc, ça suffit pour faire la campagne Libertadores. Tu disais, Luan, s'il part, ça sera juin-juillet, mais la phase de groupe sera terminée, donc il l'aura faite. Et très honnêtement, là, il faut fond sans Arthur, il manque de jambes, hein, il manque de rythme. Ça se voit clairement, les mecs sont revenus très tard du Mondial des clubs. Enfin, ils ont eu des vacances prolongées, voilà. Mais très honnêtement, ils se sont déjà bien adaptés. Le match retour face à Independiente, Grêmio l'a particulièrement bien géré. Ça s'est pas franchement beaucoup vu, hein, l'absence de Louan. Il leur manque par contre, et tu parlais des recrutements, pour moi, il leur manque un vrai avant-centre. Ça, c'est ce qui peut leur faire défaut sur la durée. Mais franchement, Grêmio a été bon, hein, sur sa Recopa Sudamericana.
Donc, ma foi, plutôt, tu es plutôt positif. Et c'est vrai que je me projetais un petit peu plus sur la compétition qu'il ne le faut, puisque là, voilà, on parle de la poule. Enfin, en tout cas, on est tous d'accord pour dire que le Grêmio reste le favori de ce groupe 1. Grêmio est le favori. Et il y a une quatrième équipe à ce groupe 1, même si on a un petit peu peur pour elle qu'elle fasse office de sparring partner, c'est le petit Monagas du Venezuela. J'avoue que j'ai beaucoup de lacunes en ce qui concerne le football, notamment de clubs vénézuéliens. À quoi on peut s'attendre avec Monagas?
Ça risque d'être très compliqué pour eux, surtout qu'ils ont été tenus en grande partie par les performances d'Anthony Blondel, qui est parti pour les États-Unis lui aussi, et qui a fait très clairement la saison de sa vie en 2017. Il a dû mettre un truc comme 23 buts en 30 matchs. Enfin, tu vois, c'est vraiment lui qui les a tenus offensivement. On le voit là, le début de championnat est un peu compliqué pour Monagas. Ils sont englués en milieu de tableau. Bon, voilà. Puis ça reste un Vénézuélien, c'est-à-dire que ça va être très compliqué d'aller jouer là-bas. Quoi qu'il arrive, ce ne sont jamais des déplacements faciles. Par contre, oui, on s'attend à ce que quand ils vont se déplacer, ça soit l'inverse. C'est-à-dire que ce soit eux qui vont souffrir. En tout cas, on les voit mal lutter pour une des deux premières places, ça c'est clair.
Première participation à Libertadores, il me semble, pour eux.
En plus, Monagas découvrira cette compétition. Eh bien, d'ailleurs, ça fait une très bonne transition, puisqu'on va passer au groupe 2, dans lequel, il me semble, et je ne crois pas dire de bêtises, il y a aussi un novice. Alors, le groupe 2, il est composé de l'Atlético Nacional colombien, qui lui est tout sauf un novice en la matière, du Olivar, cher à Thomas, on va revenir dessus, de Colo-Colo, le club de le gigantesque classique de Santiago de Chile, et donc, il me semble, je ne crois pas dire de bêtises, un novice, l'équatorien, champion d'Équateur, Delphine. Un novice un peu mieux armé que les Vénézuéliens, ou ça va aussi être très compliqué pour Delphine?
Ça va être compliqué pour Delphine. Ils sont mieux armés que les Vénézuéliens. Ils sont pas champions, hein. Ils sont vice-champions d'Équateur. Ils ont perdu la finale face à Emelec. Ils avaient gagné la première partie du tournoi. Ils ont été la grande surprise, hein, en Équateur, très clairement. Ils ont fait une saison hallucinante. Ils n'ont pas de grandes stars, mais ils avaient de super joueurs. Malheureusement, il y en a quelques-uns qui sont partis, et des vrais cadres. Je pense à Chancelor en défense, qui est parti. Et ça va faire mal, parce que c'était vraiment le meilleur défenseur qu'il y avait dans le championnat équatorien l'année dernière. C'est un Vénézuélien, pour le coup. Ils ont perdu Jordan Sierra, qui était un super joueur au milieu de terrain. Tu vois, ils avaient une épine dorsale avec ces deux joueurs-là au centre de la colonne vertébrale, on va dire. Et ces deux-là sont partis. Bon, ça va être compliqué. Après, Sanguinetti, l'entraîneur, est uruguayen. Je vais pas la prendre à Jérôme. On sait que les entraîneurs uruguayens, les trois quarts du temps, sont capables de fabriquer des équipes hyper équilibrées, hyper efficaces. On va voir. Ils ont été la sensation en Équateur l'année dernière. Je vais pas te dire qu'ils vont aller gagner la Libertadores, hein, faut pas abuser. Hein. Mais ils peuvent en piéger quelques-uns, très clairement.
Donc voilà, un Delphine qui, comme tu le dis, sera un peu en mission commando dans cette Libertadores. En plus, avec un entraîneur uruguayen, on va aller sur le cliché Uruguay égale combativité, esprit guerrier, etc. Pas si ça fait sourire Jérôme, ça fait rire Jaune ou pas, mais en fin de compte...
Il y a de ça, quand on voit le parcours, voilà. D'Empenente del Valle l'année dernière, il y a un peu de ça.
Franchement, ça s'applique à Delphine, hein. Il y avait une grosse combativité, et c'est très efficace quand ça attaque. Bon, après, vous verrez, vous allez bien rigoler quand vous verrez l'avancante si vous ne le connaissez pas. Là, en tout cas, Ordóñez, c'est un joueur qui me fait rire, il ressemble à rien, mais pourtant, il claque des buts. Mais il ressemble vraiment à rien, vous verrez. Si ça donne de l'espoir si on veut être footballeur professionnel.
Eh ben, un attaquant que pourra peut-être découvrir Thomas à La Paz, puisque Delphine se déplacera pendant cette phase de poule sur le terrain de Bolívar, le Bolívar de La Paz, qui est donc l'une de ces équipes qui composent ce groupe avec l'Atlético Nacional et Colo-Colo. Alors l'Atlético Nacional et Colo-Colo, on va y venir, hein, c'est des habitués, c'est un peu des cadors continentaux. Bolívar, en tant que Bolivien, dans une moindre mesure, ça peut être plus compliqué, mais il y a eu de belles recrues. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce Bolívar?
Il y a eu de belles recrues du côté du Bolívar. Et leur chance, c'est peut-être de jouer Delphine lors du premier match, puisqu'ils se déplacent à Delphine la semaine prochaine. S'ils ramènent un résultat positif, le plan ensuite peut être de tenter de faire le plein à domicile. Parce que sur le papier, je vois quand même Colo-Colo et l'Atlético Nacional supérieur, malgré les recrutements du Bolívar, qui a quand même fait revenir Juanmi Calejón, qui a fait venir Martin Sternberg de Suède, et qui a fait un recrutement très intéressant avec Marvin Berahano, qui vient des ennemis du Strongest. Ensuite, au niveau des départs, il y a Beñat San José qui est parti avec Matias Iturro du côté du Chili. Donc le nouvel entraîneur Vinicius Otropico est en train de mettre petit à petit une équipe en place, une équipe qui a gagné 5-1 face à Wilstermann lors de la première rencontre. Mais depuis, il y a eu un gros couac pour le premier gros test de l'année. Ils ont perdu 2-0 ce week-end, le Classico face au Strongest. Donc Bolívar, ça va rester une interrogation parce que l'an passé, ils se sont fait sortir au premier tour de la Copa Sudamericana face à Quito. Et depuis, ils se sont baladés en championnat. Ils ont gagné le tournoi Apertura et Clausura 2017. Depuis, ils n'ont pas eu vraiment de gros chocs, de grosses rencontres à négocier, à part les classicos en Bolivie. Donc on va voir comment ils vont pouvoir gérer ces gros événements face à Colo-Colo et face à l'Atlético Nacional. Ce qui va vraiment être essentiel, comme je l'ai dit, ça serait de faire le plein à domicile et de ramener un bon résultat la semaine prochaine pour commencer face à Delphine.
De l'ambition, donc, enfin, la technique du plein à domicile, déjà, c'est un classique chez les Boliviens, et de l'ambition, comme tu le dis, de l'ambition, on ne peut pas dire que l'Atlético Nacional et Colo-Colo n'en est pas, parce qu'on est sur deux équipes un peu revanchardes. L'Atlético Nacional, qui a fait une campagne un peu catastrophique, complètement catastrophique l'an passé, mais qui est en train de se refaire la cerise, vraiment, sur le plan national, et donc maintenant, on espère pour eux, sur le plan continental. Et Colo-Colo qui a été, je me trompe pas, champion là. Hein.
Ouais, c'est ça.
Voilà, semblait bien. Hein, je voulais pas. Voilà, qui a été champion et qui a enregistré le retour d'El Mago Valdivia, ancien joueur de Palmeiras, un très grand club, un immense club bien subjectivement. Alors, quels sont, voilà, là on est sur deux clubs qui prétendent clairement aux deux premières places, un peu plus que Bolívar, même si les ambitions sont là, et Delphine qui découvre la compétition. Pour l'Atlético Nacional, je vais commencer par lire l'avis de Pierre Gerbeau, qui n'a pas pu être ici aujourd'hui, mais qui est notre spécialiste Colombie, et qui donne son avis ainsi sur l'Atlético Nacional. Ils sont favoris du groupe 2, dit-il. S'ils font carton plein à la maison, ça devrait passer. Alors attention à bien négocier le premier déplacement face à Colo-Colo. Voilà, comme on l'a dit, hein, ce sera le gros rival. Almirón a un peu de mal à trouver son style, mais ça devrait monter en puissance gentiment. Il y a la profondeur de banc pour bien gérer la Liga Águila et la Libertadores. Ils ont fait plutôt un bon match hier face à l'América, hier à l'heure où il écrit ses lignes, bien sûr, l'América Cali. La période Lilo semble avoir été digérée, ça serait une vraie déception de ne pas les voir sortir de ce groupe. C'est pas l'équipe de 2016 qui avait été championne donc de Libertadores, mais ils ont de quoi viser une place en quart, donc de sortir de ce groupe, qu'en pensez-vous?
Ouais, je suis d'accord. Il faut qu'ils digèrent l'après Juan Malilo qui a été une catastrophe. Enfin, pas l'après Juan Malilo a été une catastrophe. La période Juan Malilo a été une catastrophe. Donc c'est aussi pour ça, hein, quand il parle, Pierre a juste raison, faut que Almirón retrouve sa cadence, trouve son équilibre, mette en place ses principes. Mais oui, c'est clairement les favoris du groupe. Il n'y a pas à sourciller. C'est clairement l'équipe qui semble le plus au-dessus. Surtout que, et c'est peut-être pas forcément uniquement pour rassurer Thomas et son Bolívar, mais il ne faut pas oublier un détail, c'est la grande capacité qu'a Colo-Colo à complètement se foirer dans les compétitions continentales. J'aurais presque envie de dire con les Chiliens à se foirer dans les compétitions continentales, mais Colo-Colo en particulier, c'est un niveau un cran au-dessus. Hein.
Il y a eu des grosses recrues. Hein. On parlait de recrues à Bolívar, on parle de recrues, si on peut parler des recrues de la tête nationale, on l'a dit, hein, Almirón, c'est l'entraîneur, c'est peut-être déjà la plus grosse recrue, puisque Almirón, on le rappelle, c'est l'entraîneur finaliste de la dernière Copa Libertadores, et avec la NOS. Et Colo-Colo, du côté de Colo-Colo, donc il y a El Mago Olivia qui est revenu il y a à peu près un an. Il y a Paredes qui est encore là, mais il y a eu aussi, j'ai plus les noms en tête, mais voilà, il y a eu des recrues assez ambitieuses. Tu le dis, ils ont l'habitude de se foirer, mais là, c'est pas l'intention.
Écoute, il y avait eu un très bon recrutement justement l'année dernière, quand il y avait eu le retour du Mago, etc., etc. Ça a un peu grogné en décembre, janvier, parce que le recrutement du début d'année là est pas exceptionnel hein, côté Colo-Colo. Valdivia, justement, t'en parlais, l'a bien rappelé dans la presse en disant vous êtes gentils les amis, mais il va falloir gérer le championnat et la Libertadores. Je suis pas extrêmement convaincu par leur recrutement, hein, pour tout te dire. je vois qu'ils ont fait venir, par exemple, Juan Manuel Insaurralde en défense. Écoute, je veux pas être méchant, mais il avance plus Insaurralde, quoi. Donc voilà, on voit dans les résultats pour suivre le championnat chilien, c'est pas encore. C'est pas hyper fluide, hein, Colo-Colo. C'est pas là ce week-end face à Palestino, le week-end dernier, ils se sont bien fait bouger. Franchement, je suis pas encore 100% rassuré par cette équipe-là. Il n'y a pas autant de garanties qu'on voudrait bien l'avoir. Ça reste quand même irrégulier. Ils ont été champions, mais ils ont été capables de bien se foirer sur des périodes de match l'année dernière. C'est bizarre à dire, hein, mais il y a presque plus de certitude et de solidité, en tout cas sur le papier, du côté de l'Atlético Nacional. Et Pierre le dit bien, hein, y a une profondeur de banc. Il y a le travail d'Almiron qui va finir par rapidement se mettre en place et qui va fonctionner parce qu'il n'y a aucun doute sur ses capacités. Je suis plus dubitatif sur ce Colo-Colo, surtout quand il va falloir gérer le calendrier qui va se charger. Et puis parce que je te dis, il suffit de regarder les dernières prestations en Libertadores de Colo-Colo, ils sont capables de se foirer face à n'importe quelle équipe vénézuélienne. Donc dans un groupe comme celui-là, ils peuvent se foirer contre tout le monde, en fait.
Et là tu parles de calendrier, c'est vrai que du côté du Bolívar, donc qui a été double champion l'an passé, la priorité elle est clairement sur la Copa Libertadores. Là ils ont déjà commencé à s'entraîner avec les ballons de la Copa Libertadores, mais surtout ce week-end ils ont un déplacement face aux Destroyers de Santa Cruz et c'est clairement annoncé, ils vont amener une équipe bis pour ensuite assurer face à Delfin la semaine prochaine. Donc moi je suis un petit peu d'accord, je vois vraiment l'Atlético Nacional un cran au-dessus dans ce groupe. Et puis la deuxième place risque de se jouer entre Bolívar et Colo-Colo, à voir comment se défend Delphine, qui est un petit peu l'inconnu sur la scène continentale du groupe B.
Tout à fait. Et bien écoutez, je vous propose de continuer. On va passer au groupe 3, qui est un groupe, somme toute, que je trouve très équilibré, dans lequel on retrouve de l'Uruguayen de Jérôme, du Bolivien de Thomas, de l'Argentin et du Paraguayen en l'occurrence, le Peñarol, très cher à Jérôme pour le coup. Le Libertad de Asunción du Paraguay, The Strongest, donc le grand rival de Bolívar de La Paz, et l'Atlético Tucumán, qui n'est plus un novice, qui découvrait la compétition l'an passé, qui avait fait bonne figure, et qui y revient cette année. Pour commencer par eux, voilà, ils ont payé pour voir l'an passé, aujourd'hui, cette année, ça va être sérieux, beaucoup plus sérieux.
Ça va être du même ordre, je pense. Enfin, ils ont fait plus que payer pour voir l'année dernière, puisqu'ils ont fait quand même un chouette parcours en phase de groupe. Moi, c'est une équipe que j'aime bien, l'Atlético Tucumán, de manière générale. On parle souvent de notions d'équilibre, de certitude et tout. C'est une équipe hyper équilibrée. C'est toujours hyper compliqué d'aller gagner dans son Monumental parce que c'est un stade incroyable au niveau de l'ambiance. Enfin, Jérôme, même toi, tu peux en parler puisque je crois que vos équipes y sont passées l'année dernière.
Oui, enfin, j'allais parler justement pour faire le pont. En effet, c'est très bien fait. J'allais le faire de la même manière. Tucumán, en effet, qui est bien connu de Peñarol puisqu'ils étaient déjà dans le même groupe l'an passé. Mais autant Tucumán, comme tu le dis, à certaines certitudes du coup et devrait pouvoir refaire un beau parcours en groupe cette année. Autant Peñarol s'était complètement lourdé l'an passé dans son groupe, le groupe de Palmeiras, une très grande équipe brésilienne entre autres, et cette année voilà, revient revanchard plus que jamais. Tu l'avais dit quand on avait présenté l'Uruguay ensemble, Jérôme, Peñarol cette fois-là ils reviennent et c'est pas pour faire figure.
Ben non, ils sont parce qu'ils sont là pour ça, hein. L'équipe est construite pour ça cette année parce que historiquement, comme on le disait lors du premier podcast pour présenter la saison uruguayenne, c'est quand même une longue histoire d'amour entre Peñarol et la Libertadores puisqu'ils en ont gagné 5, ils ont aussi fait 5 finales, c'est l'équipe qui a perdu le plus de finales, hein, mine de rien aussi, en ayant gagné 5 titres. Donc c'est une vraie grande équipe en Libertadores. Historiquement, la dernière finale date de 2011 et là ils sortent de quelques années où ils sont pas mal lourdés, notamment l'année dernière, hein, avec le fameux 7-2 de mémoire contre Georges Wilstermann.
6-2, ouais, un très bon souvenir 6-2. Pour les Boliviens.
Voilà. Donc là, l'équipe est plus construite pour, avec un collectif d'expérience, avec l'Argentin Maxi Rodriguez, avec Sebochard Rodriguez, Christian Rodriguez, l'ancien du PSG. Voilà, avec des vrais.
Walter Gargano,
voilà, le nom m'échappait. Au milieu, une charnière en défense, Arias Formigliano, qui marche très bien aussi. Guillermo Varela, qui était à l'Eintracht Francfort et à Manchester United avant, et qui est un excellent joueur aussi. Donc, ils ont vraiment un très bon collectif. Après, c'est la Libertadores, donc il faudra voir. Les premiers matchs, ils recommencent le premier match à aller chez les Pingouins en Bolivie, donc ça peut être toujours compliqué pour commencer. On verra. assez rapidement comment ça se décante. Mais dans l'absolu, si on prend pas en compte les adversaires, disons, l'équipe est construite pour ça cette année et c'est vraiment leur objectif, leur obsession.
Donc tu l'as dit, oui, Peñarol qui est là, qui n'est pas là pour beurrer les biscottes. Mais c'est bien dit, hein. Mais et qui est là pour remporter le trophée, hein, pour de vrai, et qui, comme tu l'as dit, va faire son premier déplacement en Bolivie du côté de The Strongest, tigre de La Paz, anciennement de Chumacero, puisqu'il a quitté le club pour Puebla au Mexique de la Liga MX. The Strongest est un habitué, hein, de la compétition. Après les performances, ça dépend un petit peu des années. L'année dernière, ils étaient tombés en huitième de finale. Le départ de Chumacero fait mal, non?
Encore, ça pourrait être pire, parce que Chumacero, dans sa deuxième partie de l'année 2017, n'a pas été aussi convaincant, aussi brillant qu'il avait été auparavant avec The Strongest. Donc j'ai envie de dire qu'il est parti au bon moment. Et là, donc, de ce fait, The Strongest a choisi de recruter un petit peu à l'étranger. Donc ils ont recruté au Venezuela, ils ont recruté Christian Novoa au Venezuela, ils ont été recrutés en Équateur, en Colombie. Mais ils ont aussi fait revenir Jasmani Campos, international bolivien de Thaïlande, et ils ont recruté l'excellent Rudy Cardozo qui était allé en quart de finale avec Jorge Wilstermann. Donc c'est des noms qui claquent moins, on va dire, du côté du Bolivar, de l'ennemi du Bolivar. Mais on a vu ce week-end lors du Classico que l'équipe qu'a monté Carlos Ischia, quelque chose est en train de se créer, un collectif est en train de se créer, et c'était très agréable à suivre ce week-end. Donc l'an passé, The Strongest m'avait séduit et était tombé effectivement en huitième de finale face à Lanús, futur finaliste. Je crois que c'était un partout à La Paz, ils avaient perdu 1-0 en Argentine. Donc ce qui est sûr, la certitude, c'est que The Strongest sera là. Ça sera une équipe solide qui sera difficile à jouer à La Paz, comme d'habitude. Donc ça va être intéressant, c'est un groupe très ouvert.
Et oui, très ouvert, comme tu le dis, moi je le trouve assez homogène, d'autant plus que le quatrième larron, c'est le Libertad d'Asunción. Et le Libertad d'Asunción, c'est pas une équipe qui est là non plus pour beurrer les tartines, j'adore cette expression. Non, plus sérieusement, le Libertad, l'année dernière, en 2017, c'est un demi-finaliste de Copa Sudamericana. C'est donc un club qui est là pour rééditer une belle année continentale 2017, mais donc voilà, la rééditer en 2018. Donc ça a l'air quand même d'un sérieux candidat dans ce groupe, Nicolas.
C'est un Paraguayen, donc une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Quand tu te prends un Paraguayen dans une compétition continentale, tu fais jamais trop le malin. Oui, et tu l'as dit, ils ont fait une demi-finale de Sudamericana, éliminé par le futur vainqueur. Mais là aussi, un peu comme le Cerro Porteño, l'entraîneur d'alors est parti, c'était Fernando Ribeiro, il est plus là, c'est Aldo Bobadilla qui a pris la place. Ils ont encore quelques talents, hein, ils ont perdu. Ils ont perdu Jesús Medina. Bon, ils ont une attaque d'anciens qui a une expérience folle et qui va encore faire des dégâts parce que c'est le principe de ces légendes-là, hein, Santiago Salcedo et Oscar Cardozo. Ils ont plus de 70 ans à eux deux, mais ça continue d'empiler des buts. Voilà, c'est le principe des légendes. On va voir comment Libertad, c'est un peu comme pour le Cerro Porteño, on va voir comment ils vont réenclencher, comment ils vont jouer, parce que normalement, enfin, l'héritage Fernando Ribeiro est assez particulier. Ça a plus ou moins fonctionné. On va voir comment ça va tourner. Mais oui, je suis d'accord. C'est un groupe hyper homogène. Ça devrait pas se jouer à grand chose, hein, très franchement. Les qualifs, pour le coup, je pense que ça va être serré jusqu'au bout. Mais voilà, attention à Libertad. Je suis d'accord avec ça. Attention à Libertad. C'est toujours des clubs compliqués. Ces clubs paraguayens. Ils démarrent en Argentine. Donc voilà. Eux aussi, on parlait tout à l'heure, hein, de comment bien ouvrir sa compétition. Hein, on parlait du Bolivar, hein, notamment. Ça va être le départ de Libertad à Tucumán peut aussi pas mal conditionner les choses. Donc à voir. Mais c'est vraiment, ouais, je pense que je suis assez d'accord avec les commentaires généraux. C'est un groupe hyper homogène.
Ouais, un groupe homogène, et bien, ma foi, j'ai envie de vous dire que le groupe 4 qui suit est lui aussi en partie très homogène. Sauf que là, on passe à un niveau un tout petit peu au-dessus. Excuse-moi pour le Peñarol, Jérôme. Mais voilà, là le groupe 4, en tout cas au niveau du clinquant, il y en a. Voilà, le groupe 4. On peut parler un petit peu de groupe de la mort déjà, là. River Plate, Flamengo, Santa Fe et Emelec. Bon, Emelec peut-être un petit peu un cran en dessous, mais déjà, River, Flamengo, Santa Fe, ça envoie du pâté. Ça envoie du pâté, biscotte. Décidément, je suis dans un registre très pique-nique aujourd'hui. River, s'essouffle, semble s'essouffler un petit peu. Voilà, quand on dit River tout de suite, voilà, ça... ça scintille, c'est River, la légende est là, mais cette année, on le voit, ils sont en difficulté en championnat, ça s'essouffle un peu. Est-ce que c'est un gros River qu'on a dans ce groupe 4 ?
Écoute, ça fait un an que River est en difficulté en championnat et River est demi-finaliste de la dernière Libertadores et se fait voler à Lanús. Donc j'aimerais, enfin tu vois ce que je veux dire ? Alors, Jérôme a parlé tout à l'heure pour Peñarol de la culture de la Libertadores du Peñarol. On est en train de parler de clubs, c'est valable pour River Plate, on en parlera très probablement pour Boca et pour Independiente tout à l'heure. C'est des clubs qui ont ces compétitions, c'est leur ADN concrètement. Donc quand tu as ces équipes là dans cette compétition, j'ai envie de dire, quelle que soit leur forme entre guillemets en championnat, c'est peut-être moins le cas ces dernières années pour Peñarol, mais ça reste des favoris même pour le titre. Donc quand on parle de la phase de groupe, franchement dans ce groupe là il est hyper rude. Je suis d'accord, c'est probablement le groupe de la mort, mais le favori reste River Plate, ne serait-ce que parce que son histoire et par son histoire récente. Je veux dire, River gagne la Libertadores 2015, se fait sortir de justesse en 2016 par la grande sensation Independiente del Valle et va en demi-finale l'année dernière. Tu vois, du point de vue de la régularité, on est quand même pas mal. Et si on bloque juste sur la notion de groupe, ça veut dire que River passe systématiquement les groupes. Et alors oui, il y a des critiques à faire, hein, sur le jeu de River, sur le chantier qui est toujours le même depuis plus de 6 mois, sur les solutions que ne semble pas trouver Gallardo dans le jeu. Maintenant, il y a eu des arrivées, je pense à Juan Fernando Quintero, qui est en train de mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière sur le potentiel offensif de l'équipe. Lucas Prato, ça reste quand même une valeur sûre et il commence à monter en régime également devant. Ça combine plutôt pas trop mal avec Rodrigo Mora. Pardon. Il y a encore un chantier derrière, c'est toujours un problème, la défense de River. Les deux milieux récupérateurs, c'est un gros problème, même si on peut pas trop s'attaquer à Léo Ponzio parce que Léo Ponzio, c'est une icône, mais bon, très honnêtement, à titre personnel, je trouve qu'il s'essouffle un petit peu. Il y a des chantiers de partout à River, sauf que voilà, River en Libertadores, ça reste River. Et pour moi, ils sont clairement favoris du groupe parce que ne serait-ce que par leurs habitudes, j'ai envie de dire, ces dernières années.
Alors pour toi, donc, River favori par contumace, eh bien, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, tu me diras, les absents ont toujours tort, mais il a fait le petit travail pour être pas totalement absent, et bah c'est Pierre Gerbeau qui, comme je vous le dis, a écrit chaque fois son petit avis sur les équipes colombiennes, et voici celle de Santa Fe, qui est donc dans ce groupe, et autant dire qu'il n'est pas tout à fait d'accord, puisque pour lui, ils sont dans un groupe assez homogène, alors là-dessus il est d'accord avec nous, même si Flamengo par favori. Ils vont faire, comme d'habitude, essayer de casser le jeu, là il parle de Santa Fe, ils vont essayer de casser le jeu de l'adversaire sans être flamboyant, ça risque d'être assez compliqué. En plus, ils sont dans une spirale totalement négative puisqu'ils ont perdu leurs 3 matchs de championnat. En préliminaire, ils ne jouaient pas des monstres continentaux et pourtant, ça a été poussif, surtout contre Táchira, dit Pierre. Peut-être que la Libertadores leur donnera des ailes, mais c'est peu probable. Donc, avant de passer à Flamengo, en tout cas, tu le vois, Pierre, mais on le sait, Pierre a un petit souci parfois avec River. Pierre ne voit pas...
On dira pas qu'il est supporter de Boca.
Pierre ne voit pas... ne voit pas River favori et il voit peut-être une compétition un peu compliquée pour Santa Fe. D'accord avec ça ?
Par contre, là où il a raison, par contre, et très honnêtement, je dis River est favori, mais c'est rude en face, hein, on insiste bien, c'est vraiment le groupe de la mort. Et là où il a raison, c'est que si on doit chercher l'équipe la plus dégueulasse avoir joué dans cette Libertadores, vous pouvez mettre votre billet sur Santa Fe, hein, très clairement. Après, Santa Fe, j'ai presque envie de dire, ils ont en ces dernières années une culture du dégueulasse. Ils gagnent une Sud-Americana en étant moche au possible.
C'est ce que j'allais dire. C'est que le dégueulasse, c'est pas ce qui les a empêchés de remporter.
Très honnêtement, la Sud-Americana qui gagne, la finale face à Huracan, c'est probablement l'une des pires finales en aller-retour que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'était une catastrophe. Mais ça gagne. Et Santa Fe, ça va être dégueulasse. Il l'a très bien dit. Il a raison. C'est exactement ça. C'est une équipe qui détruit le jeu de l'adversaire, mais qui peut s'en sortir. Ils ont Wilson Morello qui est en train de retrouver sa capacité à marquer des buts. Et donc, Santa Fe, ils vont être capables de gagner des matchs 1-0 avec un seul tir dans le match. Donc oui. Et Santa Fe, sur ce genre d'équipe-là, en phase de groupe, c'est toujours emmerdant, très clairement.
Santa Fe, donc, qui s'attellera à cette grande tâche de détruire le jeu de ses adversaires, et notamment détruire le jeu de l'équipe qui, pour lui, est le favori de ce groupe. Personnellement, je ne sais pas si c'est le favori par rapport à River, mais en tout cas, oui, c'est une très grosse équipe. Il s'agit des Brésiliens, chers à notre ami Marcelin Chamoin, les Brésiliens de Flamengo. Voilà, une équipe qu'on ne présente plus non plus, une équipe qui était déjà une grosse écurie l'année dernière, hein, voilà, menée par un joueur comme Diego, par exemple, Diego qui est passé par la Juve, Brême, et il me semble Wolfsburg aussi, je crois. Et quelques pépites, voilà, on a Orlando Berrio, pardon, le Colombien, on a Vinicius Junior, le fameux jeune pouce Mbappé brésilien, on va dire, qui a été pré-recruté par le Real à coût de quarantaine de millions. On a ce capitaine que j'adore, moi, personnellement, William Aran. Je ne vais pas tous vous les citer, hein, voilà, c'est une très grosse équipe continentale, et je pense qu'une très grosse équipe mondiale, sauf que Flamengo, l'année dernière, à 2-3 détails près, avait le même groupe, et c'est complètement lourdé. Enfin, complètement non, mais c'était un peu l'année de la loose. Ça a été la loose en championnat. En Libertadores l'an passé, ils se sont loosés, on va dire, en poule, puisqu'ils ont perdu leur qualification. Ils étaient déjà dans un groupe de la mort. Je ne l'ai plus en tête. Il y avait Atlético Paranaense, il y avait la Católica et
San Lorenzo.
Voilà, on est sur du bourrin. Et il s'était fait éliminer à la dernière seconde du dernier match par un but de San Lorenzo. Ils avaient été reversés en Sudamericana. Le groupe étant ce qu'il est et ayant la qualité qu'il est, ils étaient allés en finale de Sudamericana où ils avaient perdu contre l'Independiente. Donc voilà, on est sur un groupe qui est revanchard. Mais, et ça c'est l'histoire de Flamengo, un peu comme Marseille en France, c'est un groupe qui n'est jamais à l'abri d'une crise d'instabilité. Donc actuellement, l'équipe fait un début de championnat carioca parfait. Hein, on l'a dit dans les brèves, ils ont gagné l'une des premières parties, puisque c'est en plusieurs parties de l'Estadual carioca. Ils ont les armes financières et en termes de talent pour faire une grosse compétition. C'est de fait sur le papier un favori, c'est clair et net. Reste à voir si la stabilité s'invitera au jeu et si la mayonnaise va prendre. C'est toujours le problème avec... Flamengo.
Ouais, c'est pour ça que je faisais de River le favori du groupe, parce que tu parlais de Flamengo-Marseille, mais on peut même presque dire Flamengo-Colo-Colo. Ils ont une capacité à se foirer quand on les attend. Hein. Donc l'année dernière, ils n'ont pas gagné un match en déplacement en phase de groupe, hein, de la Libertadores. C'est ce qui les plombe, hein. C'est pas le but à la dernière seconde contre San Lorenzo. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas gagnés et pas capables de battre Paranaense ou la Católica qui n'avançait plus. Hein. Donc voilà.
Et bah oui, comme tu le dis, oui. Donc voilà, Flamengo qui est tout à fait capable de passer au travers de sa phase de poule, même si elle a toutes les clés en main, même si c'est une équipe qui a toutes les clés en main. Et notamment Flamengo qui pourrait tomber sur un os, qui pourrait tomber sur Emelec, qui, comme ça, de visu, en tant qu'équatorien, pourrait paraître un petit peu l'équipe plus faible, entre guillemets, du groupe, mais qui ne l'est peut-être pas. C'est peut-être le loup qui va sortir du bois.
Bah, Emelec, c'est...
Oui.
Non, rien, je voulais faire une petite blague, mais là, évidemment, si je la refais, ça tombe un peu à l'eau.
Vas-y quand même.
Ouais, vas-y, presque, vas-y.
Non, je demandais s'il y avait un lien avec le Gazélec, mais...
Ok, je la garderai. Celle-là. Bien. Donc, pour en revenir, est-ce que, du coup, pour faire un lien avec le Gazélec, est-ce que Emelec aura assez de gaz pour faire péter ce groupe?
Ah, magnifique, surtout quand on parle d'un club qui est surnommé l'Ampoule. Donc, bah, écoute, Emelec, oui, ça paraît le plus petit dans ce groupe-là, mais je pense que tu l'aurais mis dans un autre groupe. Il était clairement candidat pour prendre une des deux premières places. C'est quand même la neuvième participation consécutive à la Libertadores. C'est jamais arrivé, hein, dans l'histoire du club que ça a un tel nombre. D'habitude, au mieux, ils avaient fait 4 ou 5 fois consécutives. Beaucoup de certitudes dans le jeu. Champion sortant en Équateur, auteur d'une très belle deuxième partie de saison, avec quelques très bons joueurs. Je pense à Brian Angulo, à Marlon de Jesus ou à Marcos Mondaini. Ils ont eu une très grosse perte qui est Fernando Gaibor, que l'on a vu avec Independiente en Recopa et qu'on va voir avec Independiente en Libertadores. L'année dernière, ils ont été faire match nul, si j'ai bonne mémoire, au Monumental contre River, parce qu'ils étaient déjà dans le groupe de River l'année dernière. Je pense que dans un tel groupe, ils peuvent prétendre à jouer la troisième place. Je ne sais pas s'ils arriveront à jouer une qualif ou pas. L'année dernière, ils se sont qualifiés, hein, devant des Colombiens. c'était qui les Colombiens qui étaient dans le groupe? Medellin, Independiente Medellin. Donc ils peuvent lutter, je pense, à armes égales avec les Colombiens. Mais bon, voilà, le problème c'est que devant il y a River, il y a Flamengo qui à mon avis vont être devant.
Oui, comme tu le disais, devant, même s'il y a du talent du côté des Melec, devant, c'est un peu ce qu'on a dit, il y a de la tradition tout de même.
Ouh, je sens que vous avez besoin de souffler, mes amis. Alors on ne se dit pas au revoir tout de suite, mais je vous laisse un petit quart d'heure pour faire un petit pipi et boire un coup, dans le sens que vous voulez. Et puis on se retrouve tout de suite pour la seconde partie de ce Bola Latina spécial Libertadores. A toutes les amis.